Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie Podcast Season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Depont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne Pezzoni. Bonjour Anne.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte dirigeante et associée de l'agence Archi5 avec Laurent Boudrier, Bernard Guillien et Jacques Sebag. Archi5 a été créée en 2003, c'est bien ça?
C'est ça.
Elle porte une attention particulière, je cite, au contexte, à la vérité des matériaux et à la précision de la réalisation. Votre agence installée à Montreuil compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs d'horizons culturels et professionnels nuancés, architecture, urbanisme et paysagisme. Archi5 se consacre à des projets d'équipement public, des commandes privées, et des projets d'urbanisme en France et à l'étranger?
Alors, en ce moment, pas vraiment, mais ouais. C'est vrai qu'on a eu la chance de travailler à l'étranger. On a eu des collaborateurs qui travaillaient en Pologne,
ouais.
Et cette agence a fermé. Mais on a d'abord travaillé en Suède, à Stockholm, où on avait gagné un plan d'urbanisme il y a maintenant une quinzaine d'années, qui nous a conduit à être recrutés au Brésil. Pour faire un projet d'urbanisme également à Maringá. Et en Argentine, ce qui était assez fou, on a aussi travaillé au Maroc, gagné un magnifique projet du musée d'archéologie qui ne s'est malheureusement pas fait.
Ouais.
Et puis on a cet appétit d'aller voir ailleurs si j'y suis, d'essayer d'autres horizons, d'autres façons de faire. On a fait quelques concours en Allemagne où on a appris beaucoup. On apprend où on gagne, parce qu'on n'a pas encore gagné ces concours en Allemagne. Et puis, on est effectivement dans une agence qui est pluriculturelle. Il y a des Italiens, il y a des Coréens, il y a des horizons variés, une Grecque, un Belge. Et on aime beaucoup ça.
Bon, alors on va revenir au début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études?
Alors, c'est plutôt un hasard, je dois vous dire. En même temps, je pense que j'ai été travaillée par l'aventure de mes parents qui ont construit leur propre maison. Et c'était une architecture un peu inconsciente, en réalité, puisque le fait architectural n'était pas une culture que nous avions. Mais cette grande aventure qu'ils ont traversée, je pense, m'a beaucoup marquée. Et puis, j'étais assez inconsciente de ce qu'était le fait d'architecture. Néanmoins, j'ai une grande sœur qui a toujours été intéressée par l'art, très, très ouverte à beaucoup de disciplines et qui m'y a mis presque par force, qui m'a dit « Toi, tu aimes les maths, tu aimes dessiner, va en architecture. » Donc, vous voyez, ce n'était pas une aspiration profonde. Et pourtant, c'est je crois...
C'est né tout doucement, en fait.
C'est né tout doucement. C'est né par la sensation dans certains bâtiments. Le premier, ça a été le couvent de la Tourette, je dirais, ouais. Qui m'a vraiment ouverte à cette subtilité, à cette richesse et à tout ce que j'avais devant moi. Et puis quelques profs, quand même. Moi, j'étais à la Villette, dans une école très, très babacool à l'époque, qui était presque post-pratique. C'est des gens qui s'interrogeaient sur la pratique... Alors que pour moi, c'est un mystère. Donc, j'avoue avoir eu un parcours un peu... C'est pas difficile. En tout cas, c'était mystérieux. Puisque ne connaissant pas grand-chose, eh bien, j'étais confrontée à des gens qui s'interrogeaient sur cette pratique. Et pourtant, j'ai rencontré des profs comme Philippe Boudon, qui avait lancé l'architecturologie, ce qui était très intéressant parce que c'était une interrogation sur comment se forme la conception. Et c'était passionnant. Donc, certains fils m'ont tiré, mais je dirais que la rencontre s'est produite dans la pratique en agence.
Ouais.
Pourquoi ? Ouais. Parce que dans le faire, on attrape le sens, on attrape le collectif aussi, c'est-à-dire cet échange entre cet apprentissage, l'admiration des gens qui savent mieux, cette envie d'y arriver. Et pour moi, ça s'est vraiment débloqué de manière très énergique à mon premier stage en agence.
D'accord. Et ouais. Qui était dans une agence parisienne ?
Qui était dans une agence parisienne, qui était chez Paul Chemetoff.
Ah oui, et grande agence.
Une grande agence qui était un creuset formidable, je dois dire, avec un grand homme qui faisait tout à fait confiance aux jeunes, donc qui nous permettait beaucoup. Et puis, voilà, un collectif de jeunes architectes qui étaient assez talentueux, que je vois dans mon parcours toujours, et puis déjà mes futurs associés.
Déjà vos futurs associés. Et donc, oui. En fait, de chez Metoff, vous avez fondé votre agence après ?
Exactement.
Ouais. Exactement. Et par une commande ?
Pas par une commande, on va dire par... enfin, moi, je n'étais pas encore associée, je l'ai été bien après, mais je pense par une envie de mes associés de s'envoler, de vivre de leurs propres ailes, et puis effectivement, des premières commandes.
Donc, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une agence qui compte à peu près 50 salariés. Comme on le disait en off, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, une moyenne grande agence.
C'est ça.
L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?
Alors, cette question de l'accomplissement, d'une manière plus générale, je dois dire qu'elle m'est assez étrangère par ma personnalité. Je pensais même pas être architecte, donc je n'en étais pas du tout dans la projection d'une grande agence qui finalement n'est pas une fin en soi, bien sûr. Moi, je me considère comme insatisfaite permanente. Et aujourd'hui, je regarde vers l'avant et je pense qu'on a collectivement, avec cette agence, beaucoup à accomplir, beaucoup à parcourir. Et c'est aussi ce qui m'anime, de voir le chemin plutôt devant que de regarder derrière. Et c'est la force de notre discipline, c'est ce que j'adore dans cette discipline, qui est une discipline sans fin, infinie. Elle est aussi grande que ce qu'on y met. Moi, je suis émerveillée par ça, même si c'est un métier difficile, mais ce caractère infini qui est dans le sens qu'on met à notre pratique et donc cette auto-alimentation de notre pratique me plaît infiniment.
Alors, est-ce que vous avez déjà parlé un peu de vos projets ? Je crois que vous êtes assez diversifiée dans les programmes.
Effectivement, nous sommes diversifiés dans les programmes comme dans les personnalités entre associés, ce qui me semble être à la fois une complexité et une grosse richesse, une formidable richesse. Moi, je crois réellement au collectif.
D'accord. Mais alors, ces différences-là, vous pouvez les caractériser ou...
Je peux les caractériser sur les personnalités de chacun qui produisent des choses.
Oui.
À l'agence, on pourrait se rapprocher de la devise de la comédie française qui est « semul et singulis », c'est-à-dire le collectif et la personnalité propre. Et moi, j'aime beaucoup cette devise, puisque ça commence par le collectif, et je crois que c'est réellement ce qu'on partage. C'est-à-dire de faire passer l'agence avant nos singularités, même si on fait valoir nos envies et nos volontés. Mais c'est toujours le collectif qui prime, et ensuite la personnalité. Alors, parmi les personnalités, on a chacun des aspirations, chacun des moments de vie aussi. Et voilà, peut-être Laurence sera plus l'envie du détail, l'envie d'aller au bout des choses. Jacques, une envie plus générale du concept, de se rapprocher de son objectif conceptuel, on va dire. Et puis Bernard aussi, une aspiration plus de de liens, de collectifs. Donc chacun sa...
Orchestration et vous-même.
Et c'est plus difficile de s'analyser dans ce collectif. Je dirais que je suis bien obligée de formuler mes aspirations dans le sein de l'agence. Et pour moi, mes aspirations, c'est effectivement le chemin à parcourir. Et pour moi, c'est la qualité du projet qui m'anime. Je poserai trois mots qui sont sobriété, qui sont attention au contexte et qui sont le détail jusque dans l'intérieur, avec l'idée de l'humain, qui est pour moi extrêmement importante, c'est-à-dire ce qu'on fait, c'est avant tout pour d'autres. Voilà, on est là pour se faire plaisir, parce que en se faisant plaisir, on a beaucoup plus de chances de parvenir à quelque chose de bien.
Oui.
Mais on est avant tout là pour une fin qui n'est pas la nôtre. Donc c'est un sujet qui m'anime beaucoup. Je peux vous parler d'un projet... On a des projets emblématiques qui peuvent être des projets fondateurs pour cette agence, comme je citerai le lycée Marcel Samba à Sotteville, qui est un projet ancien, mais qui était un projet paysage qui nous a transportés symboliquement, parce que l'idée était de faire un lycée professionnel des métiers de l'automobile et de leur offrir un cadre assez fou, qui était le prolongement d'un parc, donc des vagues végétalisées qui viennent créer des ateliers, et qui est un projet assez fondateur pour cette agence.
Et il remonte à quand ?
Il remonte à 2005, vous voyez, donc c'est assez ancien. C'est des projets qui étaient assez conceptuels. On avait gagné aussi un stade à Toulon, un magnifique stade d'entraînement de rugby avec une structure tendue, donc une prouesse structurelle et en même temps quelque chose de très léger. Et puis une médiathèque à Mont-de-Marsan aussi, qui sont peut-être, je les qualifierais de projets assez fondateurs. C'est des projets qui ont une certaine visibilité, qui ont eu beaucoup de prix, qui nous ont fait, on va dire, connaître.
Et donc, que des marchés publics, finalement ?
Que des marchés publics. C'est vrai qu'on est principalement sur les marchés publics. Et ces projets, ils nous ont donné une forme de base, de ligne, sur ce que vous citiez, pas ce qu'on affiche, mais de ce qu'on énonce, c'est-à-dire la vérité structurelle, l'attention au contexte, des éléments qui sont forts dans notre idée de l'architecture. Ligne qui, je pense, a été suivie, même si on n'est pas une agence qui peut être caractérisée formellement, on ne peut pas se dire sur un projet « Ah tiens, c'est eux ». En tout cas, ces fondamentaux sont toujours là aujourd'hui et on souhaite les poursuivre parce que...
Continuer à les porter.
Continuer à les porter puisqu'ils s'inscrivent toujours dans notre démarche qui est celle de la sobriété, qui est celle de l'attention au contexte toujours et qui sont peut-être énoncés de manière différente, dont le sens a un peu évolué, mais qui conservent leur caractère original.
Et dans le premier que vous citiez, le lycée Marcel Samba, le fait de donner beaucoup d'importance au paysage en corrélation avec l'automobile, c'était déjà très résilient en 2005, parce que ça aura bientôt 20 ans.
Ouais.
Et donc finalement, on parlait quand même moins de végétalisation il y a 15-20 ans.
C'est vrai.
Vous étiez déjà dans cette logique-là.
Nous étions fortement dans cette logique-là, avec en plus une chose importante, c'est que c'était une restructuration.
Oui.
Donc l'idée de conserver au maximum ce qui était sur place était un peu les deux corollaires de ce projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est alors différemment bien sûr, mais on est toujours dans cette optique-là. C'est de favoriser cette sobriété par de la conservation au maximum des choses existantes. Moi, je suis très attachée au sujet de la restructuration. C'est un sujet que je trouve formidable et extrêmement porteur. Si on voit l'ensemble du patrimoine bâti dont on dispose, eh bien, commençons par celui-là, parce qu'il me semble être plus important de faire avec l'existant que d'à nouveau venir construire...
Et minéraliser.
Donc c'est un vrai sujet. Je peux vous citer un projet qui nous tient à cœur, qu'on vient de livrer, qui sont des logements pour Paris Habitat, avenue Jean Jaurès. Et dans un contexte parisien, on était dans une parcelle traversante entre deux rues. C'est un projet qu'on a fait avec l'agence Encore Heureux.
Ah oui.
Et que nous, on a donc fait une restructuration d'un garage, donc une parcelle totalement minéralisée, en logement. On a conservé ce garage qu'on a transformé en logement pour partie. Et puis, sur la partie où on ne pouvait pas conserver de bâtiment, eh bien, on a construit en bois. Et c'est devenu une parcelle habitée, extrêmement heureuse, extrêmement joyeuse, avec un vrai jardin en plein Paris. On est très fiers de fabriquer des lieux de vie issus d'autres choses, je pense. Et puis c'est une satisfaction de ne pas rapporter du béton. C'est une satisfaction d'utiliser ce qui est déjà là.
Oui. Alors, on a déjà reçu Nicolas Delon dans Comme d'Archi. C'est eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui êtes allés les chercher ?
C'est nous qui sommes allés les chercher parce que, au vu de l'annonce, je savais qu'il faudrait tout tenter pour garder ce garage et le transformer. Et connaissant cette agence, eh bien, c'était les bonnes personnes et ça a été les bonnes personnes et c'était une très belle aventure que ce concours avec eux.
Vous étiez mandataire ?
On était mandataire, oui. Parce qu'eux n'avaient pas cette expérience du logement que nous avons, nous, développée depuis une dizaine d'années. En fait, cette expérience, on l'a développée, je dirais, de manière un peu particulière, contrairement peut-être à la pratique que font les autres architectes. En fait, on a rencontré un promoteur qui était engagé sur la question du bois. Donc, un très jeune promoteur et qui se trouve être installé dans notre agence. Et avec lui, on a réalisé quelques opérations bois, petites opérations avec beaucoup de valeur ajoutée en termes de
bilan carbone,
d'une part, mais finalement, c'est pas vraiment ça qui nous a intéressé. Le plus, c'est qu'il y a eu beaucoup de valeur ajoutée sur l'architecture aussi. Donc, les deux étaient liés. Puisque cette nouvelle pratique de fabrique du logement avec un nouveau matériau permettait d'ouvrir la conception. Et ça a été vraiment formidable de pouvoir échanger avec eux. Ça, plus l'engagement de ce promoteur qui nous a poussé dans nos retranchements sur la question du bois. Et nous pouvions introduire la question de l'habiter. Donc ça a été, c'est une belle aventure et qui nous donne vraiment une soif de dépasser ce qui nous est demandé dans le logement, qui est pour moi une vraie question de l'architecte aujourd'hui, la fabrique du logement. On doit agir sur cette question-là. Je pense que l'architecte s'en fait éjecter petit à petit. Il faut que nous réagissions. Je pense qu'en se faisant éjecter, il faut que nous prenions part à la fabrique du logement. Beaucoup d'architectes pense à cela. Je sais qu'Ingrid est passée derrière votre micro il n'y a pas longtemps.
Ingrid Taillandier.
Et c'est pour moi, c'est, je pense, un combat. Là, il faut y aller.
Et vous pensez que ça l'est encore ? Parce qu'on en parle quand même beaucoup, là, de cette place de l'architecte qui est en train de reculer et de la promotion qui s'empare de vos compétences, quelque part. Ça se rééquilibre pas, c'est toujours recul.
C'est en recul constant.
Oui.
Et je dirais que pour vraiment aller s'en emparer, il va falloir que nous, on s'occupe de la promotion, si on doit y aller. Et je vous dis ça en parfaite... Je vous dis pas ça par hasard, c'est que... Alors, je pense que ça peut se passer par opération pilote, on va dire. On a eu l'occasion, nous, de faire nos propres logements en autopromotion. Eh bien, je crois que c'est une voie. Je crois qu'il faut faire un maximum de petites opérations d'autopromotion, par exemple, où il est possible d'engager la qualité là où elle doit être. Donc, il faut aussi se pencher sur le cadre. Donc, évidemment, on ne peut pas engager, on ne va pas devenir promoteur à la place des promoteurs. Maintenant, des alternatives à la promotion sont possibles.
Et puis, dans cette promotion, j'ai un exemple assez concret d'une assez grosse agence pour laquelle j'ai communiqué sur un projet et un retour d'une personne lambda qui se plaint en disant faire de la pub. Alors déjà, c'était vraiment pas de la pub, c'était du contenu et de la culture. Alors, faire de la publicité sur ces logements dont les balcons sont transformés en piscine, etc. Donc après, communication de crise, on en parle avec l'architecte et l'architecte nous dit, bah oui, bah, c'est exactement l'exemple du promoteur qui absorbe le chantier et qui finalement l'absorbe mal. Et si on faisait ça dans toute la sphère médicale, bah, ça pourrait pas marcher.
Exactement.
Voilà, donc il y a cette question déjà, j'ai l'impression, du suivi de chantier.
De l'exécution.
Ça. L'exécution, oui.
Tout à fait, parce que... Je dirais qu'en glissant cette pratique fait que je crois que... Alors, je n'incrimine pas tous les promoteurs parce qu'il y a vraiment des gens qui ont cette conscience et qui sont très bien. Je crois que les promoteurs ne savent plus ce qu'ils font. Quand ils dévient, c'est-à-dire je rencontre des promoteurs qui ne savent pas ce que c'est que faire un bâtiment ou ce que c'est qu'être architecte. Moi, ça me questionne. C'est que... Pour le coup, redonner du sens à leur propre pratique, c'est quelque chose qui serait crucial, urgent, nécessaire. Et en premier lieu, d'avoir une vague idée de ce que nous faisons. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne dessine pas des façades. Nous, on crée des logements, des endroits où les gens vont vivre. Donc, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, parce que, évidemment, tout est dans la nuance, mais je dirais que ça commence là.
Oui, par la répartition de l'espace.
Par la répartition de l'espace, par...
Et la manière dont ça s'articule.
Voilà, les expositions,
les choix de
la
matière.
Surface, les fenêtres, des choses très simples.
Et tout ça en rentrant dans les clous de la législation.
Absolument. En rentrant dans les clous de la législation. Et puis ensuite, le coût de construction, parce que les architectes ne sont pas des doux rêveurs artistes. Non, on a l'habitude, on sait bien qu'un chou est un chou. Je crois qu'on est capable de ça. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de pensée, beaucoup d'intelligence qui est dépensée, justement, pour totalement autre chose que l'objet. Nous, l'objet, c'est des gens qui vont vivre dans des logements. Et si on concentrait nos forces là-dessus... Plutôt que d'aller essayer de faire des économies sur des choses qui finalement coûteront plus cher à la fin, etc., eh bien, on arriverait à faire ensemble quelque chose de meilleur. Sur la question de l'exécution, en fait, les promoteurs attendent des architectes quelque chose qui n'est pas de leur ressort. Ils attendent des prestations, en fait, clés en main, avec de l'ingénierie, de l'architecture plus ou moins, enfin, quelque chose où on a... On n'a pas à se poser des questions. Non, je pense qu'il faut une équipe avec chacun ses compétences, comme on fabrique des équipements. On a des missions complètes, on arrive au bout, on tient la boutique, mais en équipe avec des bureaux d'études compétents et avec les gens qu'il faut. Mmh. Et je dirais que cette idée de la construction est en train aussi un peu d'être distillée jusque dans l'équipement. Donc, je suis assez inquiète en même temps.
Est-ce que, je vous coupe, pardonnez-moi, est-ce que c'est lié à la grosseur de l'entreprise de promotion? Parce que moi, j'ai des exemples, j'ai vu des très gros démolir des choses qui n'auraient jamais dû être démolies, avec effectivement des profils de jeunes qui sont formés à la promotion immobilière, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils font, qui n'ont aucune culture architecturale, mais rien. Est-ce que c'est lié à la taille ou...
C'est un gros facteur.
Ouais.
C'est un gros facteur, en effet.
Ouais.
Pourquoi? À mon avis, pour les chaînes décisionnelles. Mmh. C'est-à-dire que le métier que nous faisons ne souffre pas d'avoir une personne qui va en référer à son supérieur, qui va en référer au supérieur, qui va en référer au supérieur, puisque finalement, la problématique se perd. Et il n'arrive au N plus 18 que la question financière. Donc les chaînes de décision sont délétères dans notre métier.
Mmh. Ça déshumanise.
Ça déshumanise et ça perd tout sens. Mmh. Je crois que ça, c'est un vrai sujet, plus une culture d'entreprise qui est finalement peut-être aussi de mettre dans les mains du dernier de la chaîne... que la question du bilan, et seulement la question du bilan, puisque la question du sens, elle est partie plus haut. Et je suis d'accord avec vous, je pense que c'est un facteur important. Après, même dans des grosses boîtes, la question humaine est importante puisqu'on rencontre des gens qui comprennent, des gens qui sont...
Oui, heureusement.
Qui sont dans ce qu'ils font. Mm. Mais en effet, les bonnes expériences qu'on peut avoir en promotion, eh bien, se trouvent avec des petites entités.
Qui sont plus agiles.
Plus agiles, avec un engagement aussi des responsables concrets sur le projet. Et on arrive à faire des projets formidables, avec des marges, à mon avis, identiques. Donc, je suis tout à fait d'accord, c'est une question qui pèse.
Oui. On va peut-être en revenir à vos projets après cette parenthèse, mais c'est bien de le dire et de porter cette voix quelque part militante pour la qualité
du projet. Mais juste un petit mot sur justement la question du bois. Nous, on est des architectes qui avons commencé à faire des logements bois très très tôt, mais je le répète, cette question du bois et aujourd'hui de la pierre, parce que en fait, la clé d'entrée des logements de qualité aujourd'hui se fait par le matériau, puisque on arrive à une construction, alors que c'est une construction traditionnelle, c'est un peu l'ironie, une construction qu'on qualifie d'expérimentale, où l'expertise est à nouveau déléguée au concepteur. Formidable. Donc, on peut s'emparer de la question du matériau, mais finalement, c'est notre refuge pour pouvoir s'emparer à nouveau de la question du logement. Et ça, on ne peut pas ne laisser ça que comme un prétexte. Donc, la question du logement, elle est là, quel que soit le matériau, quelle que soit la façon de faire.
Il y a encore un sacré boulot.
Plus que jamais.
Alors, de quel autre projet, peut-être, aimeriez-vous parler ?
Il y en a plusieurs, mais le projet que je trouve très intéressant en ce moment, c'est un groupe scolaire que nous faisons à La Rochelle, qui est une collectivité très engagée sur le carbone, sur la sobriété, sur l'écologie en général. Et c'est un projet qui est une restructuration d'une école existante sur un site totalement dénaturé et qui va devenir une école de la nature. Alors, pourquoi ce projet en particulier m'intéresse ? C'est que c'est un projet qui s'est réellement co-construit. On a eu une démarche participative pour un équipement scolaire. Ça, c'est réellement formidable.
Oui, c'est unique.
Unique. Ouais. Unique pour nous, avec un programme assez ouvert, formidable, où, vous savez, lorsqu'on reçoit un concours, on lit le programme, et là, on avait des étoiles dans les yeux en disant... Youpi, quoi, on va pouvoir y aller. Et puis, ça ne s'est jamais démenti. C'est-à-dire que, quelle que soit la phase du concours, alors c'était la phase du projet, pardon, ce qui était un peu sportif, eh bien, on avait un maître d'ouvrage hyper motivé qui nous disait « Et si on faisait ça ? Et si on mettait du réemploi ? Et si... » Et même si c'est difficile à gérer, réaliser, eh bien, c'est une aventure formidable qui est porteuse, je crois, pour tous. C'est un projet qui formellement est ce qu'il est, mais qui est dans l'ambition qu'on y a tous mis, je pense, va créer un cadre formidable.
Alors, ce volet participatif, il s'est exprimé comment ? Est-ce que chacun a mis la main à la pâte ou a sorti son porte-monnaie ou, et qui et, voilà.
Alors, on est parti quand même d'un corpus, on avait un certain nombre de choses à faire, mais on a interrogé tous les acteurs de cette école, plus les associations, plus le centre de loisirs, plus les habitants, plus un peu tout le monde. C'était pendant le Covid, donc ça s'est fait aussi même en visio, on a pu faire ça. Et on les a interrogés en fait sur le fonctionnement, sur le mobilier, sur les espaces extérieurs, sur la mutualisation, comment on va faire ? Parce qu'il y a un vrai projet d'utiliser les espaces, d'une utilisation des espaces par chacune de ces entités, ce qui n'est pas si facile à gérer dans la vie quotidienne. Donc comment on va faire pour que telle association puisse accéder à son local, ranger ses affaires, vraiment les choses de la vie quotidienne. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, en faisant cette démarche-là, eh bien, on donne toutes les chances à ce que ça puisse se faire.
Oui, vous avez accès... à tout ce qui est fonctionnel. En fait, vous avez interrogé les sachants,
exactement,
les utilisateurs.
Exactement, et on a recueilli beaucoup plus d'informations. Je pense que les gens se sont investis, je pense qu'ils sont contents de s'investir. Je pense que dès qu'on donne la parole à quelqu'un, eh bien, et qu'on recueille réellement son avis, eh bien, on enrichit le projet, c'est évident. Donc là, on est en appel d'offres, on va commencer le chantier en janvier. Et c'est un projet formidable, vraiment.
On a hâte de découvrir, oui, ça, réalisé. Il faudra nous tenir au courant. Comment vous êtes la seule femme parmi trois hommes? Comment vous le vivez? Parce que c'est vrai que le milieu est quand même encore très masculin. Même Ingrid Taillandier, justement, me disait que la profession manquait de modèles féminins et que le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes à l'école et qu'après ça se transformait pas, devait questionner.
Pour moi, c'est un sujet, c'est presque même le sujet de ma vie, c'est l'égalité. Alors, dans mon cas, ça se traduit par, effectivement, par une inégalité homme-femme que j'ai découverte, moi, dans le milieu professionnel, parce que c'est quelque chose qui m'avait pas...
Effleuré.
J'ai pas été élevée comme ça, et puis je suis d'une génération où la question était un peu évacuée chez mes camarades, j'avais le sentiment que c'était évacué. Eh bien non, ça ne l'est pas, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, et c'est toujours un combat. Alors, chez mes associés, je ne peux pas dire que ce soit un sujet, mais mes associés sont porteurs d'une culture latente et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ils m'appellent un petit peu la censure, parce que je n'ai plus de cesse que de leur dire non. non, ça c'est non. Oui. Donc je suis un peu la rabat-joie de service sur cette question comme les autres, qui, à mon sens, même si moi-même je suis pétrie d'une culture inégalitaire, parce, oui, qu'il faut faire aussi avec ses propres démons, c'est que moi-même je suis issue d'une culture où la place de l'homme est plus importante. Donc même moi je suis obligée de lutter contre ma culture, tout simplement. Mais c'est une histoire que je porte très fortement. Parce que l'inégalité est insupportable, en général. En général, parce que je l'ai vécu jeune. Alors là, beaucoup. Oui. Beaucoup avec des maîtres d'ouvrage salaces, des choses pas très brillantes, oui, pas très élégantes. Des réunions de chantier où, effectivement, on nous prenait guère au sérieux. En même temps, on était des jeunes... Enfin, moi, j'étais une jeune architecte, pas très sûre de moi, mais je dirais que le facteur consistant à être une femme n'était pas très aidant. Mais donc, je l'ai porté concrètement avec, pas de souffrance, mais de l'envie. J'avoue être encore aujourd'hui, à mon âge, être prise parfois pour une perruche. Et je pense que la question du sexe fait partie de ce regard.
Ouais.
Bon. Moi, j'ai pas envie d'en faire une histoire. J'ai envie concrètement
de le dépasser,
qu'on en parle plus. Mmh. Il faut qu'on en parle plus, que ce soit l'origine, que ce soit tout. Il faut qu'on en parle plus. Il faut se dépasser soi-même, ce qui n'est pas facile en premier lieu, et se dépasser soi-même sur tous ces sujets permet de ne plus lâcher la rampe sur les interactions qu'on a. Voilà. Aujourd'hui, je ne laisse plus rien passer. J'ai laissé passer pendant 45 ans. C'est fini. Je ne laisse plus passer. Voilà. Terminé. Donc, ça, c'est le premier jet. Au sein de l'agence, eh bien, je pense que les choses ont changé. Mes associés sont dans l'optique d'un retrait à moyen terme. Je pense qu'il faut faire pousser tous nos talents, et il y en a. Il y a des filles, il y a des garçons. C'est vrai qu'il y a plus de garçons que de filles encore. Pourtant, on essaie de développer, mais c'est vrai qu'aussi, moi, je ne me résous pas à me dire je recrute tel ou tel sexe par. Je suis trop féministe pour cela. En fait, pour moi, il faut que la personne en face qu'on puisse la juger sur concrètement ce qu'elle est plutôt que sur le fait qu'elle est une femme. Donc c'est ma limite de la discrimination positive à cet égard, parce que je ne supporterais pas de considérer mon interlocutrice en me disant je la favorise parce que c'est une femme. Non, je veux la voir dans son intégrité. Mmh. Quand je vous parle d'égalité, je vous parle d'égalité en droit. Ce qu'on oublie souvent, c'est l'égalité en droit. Mmh. Et cette égalité en droit, elle doit exister. Et elle existera. Elle doit exister impérativement. Moi, je ne vous parle pas d'une égalité absolue. On est tous pareils, on est tous... Non. Il y a des particularités. Mais l'égalité en droit, c'est non négociable.
Ouais.
Cette égalité en droit, elle passe par le changement nécessaire de réflexe culturel d'inégalité en droit. C'est-à-dire que la dégradation de l'image de l'un ou de l'autre procède d'un mécanisme d'inégalité en droit. Mmh. Donc, je m'attache à cette égalité-là, et seulement celle-là, qui se voit, sur toutes les ascensions, c'est-à-dire, on ne va pas promouvoir l'un ou l'autre, mais en tout cas, chacun ses chances de manière égale, parce que chacun a le droit à sa chance de manière égale. Mmh. Voilà. Et au contraire, moi, c'est vrai que je ne crois pas du tout à l'homogénéité.
Mmh.
Donc, c'est un sujet super important,
oui,
qui me tient profondément à cœur. Et qui, je pense, malheureusement, a de beaux jours devant lui.
Je pense que, oui, c'est pas gagné.
C'est pas gagné, mais on lâchera rien. Il faut rien lâcher. Et qu'on soit homme, femme, qu'on ait toutes...
Oui, vert, blanc, rouge, bleu.
Vert, blanc, rouge, bleu. Ouais. Il faut que chacun ne lâche rien. Fermement, doucement, mais avec de l'amour. Parce qu'en fait, c'est aussi important de respecter son interlocuteur, même si lui n'est pas conscient de ce qu'il fait.
Mmh.
Je pense que les gens ne sont pas fondamentalement méchants. Hein. Je pense qu'ils ne voient pas ce qu'ils font.
Alors, pour conclure, d'une part, comment imaginez-vous le futur? De quelle manière vous vous emparez de cette obligation de l'architecte d'anticiper? C'est peut-être plus précis de le formuler comme ça, d'une part. Et d'autre part, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en archi aujourd'hui?
Alors, peut-être que la question du futur, c'est comment habiter dans un monde où il y a de plus en plus d'humains. Et ça, c'est un véritable enjeu qui ne concerne bien sûr pas que l'architecture. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser au plus près de la question des usages. Je pense que habiter dans un monde avec autant d'humains et faire tous la même chose au même moment, bien, ça ne va plus être possible. Donc, les usages sont une question très, très importante de notre avenir en commun. Je pense qu'il va falloir qu'on partage plus, il va falloir qu'on change nos façons de vivre. Et je ne parle pas que de fermer le robinet quand on se lave les dents. Il y a toute une façon de vivre qu'il faudrait revoir. Je pense à l'usage de nos bâtiments. Par exemple, nous faisons des équipements, et c'est une pensée qui évolue. Hein. On fait des équipements scolaires qui sont utilisés à peine la moitié du temps. Donc ça, c'est une chose qui ne doit plus exister. Il faut qu'on, lorsqu'on fait une cuisine pour un groupe scolaire, on fait une cuisine formidable. Elle sert le midi, elle sert hors vacances scolaires. Il reste très peu de temps finalement où elle sert. Eh bien, ça, c'est plus possible. Je pense qu'il faut penser, disons, en amont de notre pratique, des programmes qui permettent au bâtiment d'être mieux utilisé. Je pense qu'il y a une vraie question de planning global. C'est-à-dire que, voilà, il faut qu'on répartisse mieux les choses. Et je pense que simplement, si on jouait sur ce curseur-là, eh bien, on dépenserait beaucoup moins d'énergie. Donc, notre question future, elle est bien plus globale que l'architecture. Sur notre sujet de l'architecture propre, je dirais que... Je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire la question de la restructuration me paraît très importante. Même si ce n'est pas le rêve de l'architecte qui aime bien partir de choses plus libres, eh bien, je pense que c'est une question formidable pour demain et pour les étudiants, de se pencher sur comment transformer ce qu'on a déjà. Je dirais aussi une chose qui est de s'intéresser à la politique. C'est une question qu'on n'ose plus tellement prendre les architectes en main. Et pour cause, parce que je crois que cet angle de vue a généré pas mal de pathologies dans notre discipline. Peut-être un peu trop de théorie, peut-être des architectures un peu trop hors sol, on va dire, et qui ont produit des choses non désirables, qu'on paye très cher aujourd'hui. C'est vrai qu'on... Enfin, comme architecte, moi, je me sens responsable de l'état de ce qu'on fabrique et ce qu'on fabrique et ce qu'on a fabriqué pendant les 50 dernières années. On n'est pas super content. Enfin, moi, je ne suis pas ravie de ce qu'on a fait. Bon.
C'est un constat général, hein, voilà. D'une part, parce qu'on construit pour quelques petites décennies, alors qu'on devrait...
Regarder loin.
Voilà, regarder beaucoup plus loin dans la qualité de la matière.
Bien sûr.
Il y a ce sujet-là, et puis il y a aussi le retour du grand public qui est désastreux, et qu'à un moment donné, se dire bah, peut-être que si il y a ça comme retour, c'est qu'il y a un blème quelque part.
Exactement. Mm. Donc je pense que ça, par réaction, ça nous a un peu décorrélé de la question politique en se disant « Ah oui, non mais les grandes théories, ça ne marche pas, il faut faire de la couture, des petites choses et machin. » Oui et non. Je pense qu'il faut se réapproprier la politique en la pensant différemment que dans les années 50-60. Il faut regarder les choses en fait avec une forme de réalisme et puis pas se raconter de salade en fait. C'est simple. On est l'architecture, je pense que c'est le domaine le moins théorisable qui soit. Donc il faut en être conscient en fait, il faut être un peu plus modeste dans sa confiance en sa propre pensée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser. En fait, il faut peut-être être plus mesuré dans sa pensée, être en tout cas un peu plus fin, un peu plus subtil, mais ça ne nous empêche pas de penser et d'affirmer un positionnement politique. Donc je pense que c'est une question à saisir, que je ferais bien de commencer par saisir moi-même, en tout cas d'exposer, mais je pense que l'architecte doit être un peu plus proche du politique. Très récemment, et pour la première fois, j'ai été appelée par une ville qui s'interrogeait sur son avenir urbain, architectural. Quand je dis une ville, c'est un maire, évidemment. Et cet échange a été l'occasion de parler à bâton rompu et sans intérêt. Sans intérêt, parce que moi, je ne me suis pas dit « Ah, super, il y a un maire qui m'appelle, je vais pouvoir tartiner sa ville. » Donc, de pouvoir parler de ce qui me semblait être essentiel dans ce qu'il fallait faire. Donc, je pense qu'il faut aussi penser en dehors de sa pratique et pouvoir avoir des échanges qui permettent à soi-même d'avancer et puis de faire partager, en fait, son retour d'expérience.
Un mot de la fin. Ça y est.
Mais un grand merci de permettre de la libre expression.
Ben, avec grand
sur
plaisir.
Sur tous les sujets.
Oui, on est là pour ça et pour essayer d'avancer ensemble et avec tous ces différents points de vue, ces différentes voies de l'architecture. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous d'être venu. À bientôt. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous lundi prochain pour le nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas la version anglaise. Prenez soin de vous. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.
Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.